Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin dont voici les titres. Les autorités coutumières et les acteurs sécuritaires du territoire de Djougouani-Touri intensifient les campagnes de sensibilisation en faveur de la cohabitation pacifique entre les communautés. La société civile locale salue cette initiative et plaide pour l'implication d'un grand nombre de jeunes dans ce processus de paix. La Fondation Étienne Tshisekedi a apporté une assistance en vivres et non-vivres hier samedi au stade Tata Raphaël à plus de 3000 ménages victimes de pluies diluviennes à la base des inondations dans la ville de Kinshasa ainsi qu'aux personnes vivant avec handicap. Face aux effets psychologiques provoqués par les événements liés à la guerre qui sévit dans la région depuis plus d'une année, de nombreux enfants du Nord Kivu présente des signes de traumatisme. Pour en parler, Radio Okapi reçoit Espoir Kikuni Musagi, directeur pays de l'ONG Secours aux Vulnérables. Il nous parle de la campagne de détraumatisation des élèves en milieu scolaire menée dans la ville de Goma et ses environs. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bonne journée dominicale à tous. Les autorités coutumières et les acteurs sécuritaires du territoire de Djougouani-Touri intensifient les campagnes de sensibilisation en faveur de la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est le cas dans les secteurs de Walendu Djati où des rassemblements populaires sont régulièrement organisés à ces sujets. Ces initiatives sont saluées par la société civile locale qui plaide toutefois pour une grande implication des jeunes dans ce processus de paix. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Jeunes, responsables des confessions religieuses, acteurs du secteur éducatif, autorités militaires et policières, toutes les couches sociales sont concernées, explique le chef du secteur de Walendu Djati. Pour cette autorité coutumière, ces actions de sensibilisation commencent déjà à produire des effets positifs sur le terrain. Justin Gouda.
Les fruits, par exemple, les marchés sont fréquentés, vous trouverez toutes les communautés confondues. Il y a la circulation même qui est, en tout cas, sans aucun incident. Que même dans des églises, les gens se fréquentent, que les gens soient ensemble, les gens parlent le même langage, que les gens se considèrent comme des frères et des sœurs.
De son côté, le coordinateur local de la société civile estime que sans l'implication active des jeunes, il sera difficile d'envisager un retour durable de la paix dans les territoires de Djougou. Germain Pacifique Bané.
Nous demandons à toutes les communautés de Djougou de s'accepter mutuellement et doubler le passé pour vivre encore l'ambiance de la vie que nos parents nous avaient emmenés avant. Nous demandons à cette jeunesse-là d'accompagner toutes ces actions qui peuvent nous ramener à une paix durable. Avant, on ne voyait pas qui est Moulin, qui est Mouem. On ne doit pas laisser route pour ces manipulateurs.
Lors de cette tournée de sensibilisation, les autorités locales insistent également sur l'importance de bonnes relations entre les civils et les forces de défense et de sécurité afin de permettre à ces dernières d'assurer efficacement la protection des populations. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Par ailleurs, l'Alliance nationaliste congolaise ANC a exprimé son soutien au président de la République dans sa démarche du dialogue national inclusif. Lors d'un point de presse tenu samedi 7 février à Kinshasa, le secrétaire général de cette formation politique a déclaré vouloir profiter de cette rencontre pour proposer des réformes dans plusieurs secteurs de la vie, notamment la politique et la sécurité, afin d'assurer le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. On écoute Franck Mbongo au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
L'Alliance des nationalistes congolais ANC en sigle, structure politique des patriotes Wazalendo, a suivi avec satisfaction la position de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, lors de l'échange de vœux avec les diplomates accrédités en RDC, en disant oui au dialogue national inclusif, mais pas avec les criminels qui détruisent l'Est de notre pays. L'ANC considère la position du chef de l'État comme preuve qu'il était déjà avec elle en date du 16 juin 2025 lors de son point de presse tenu à Kinshasa. L'ANC va profiter de ce dialogue pour proposer une série de réformes législatives, politiques, sécuritaires et administratives afin d'assurer efficacement le respect de l'intégrité de la RDC.
Rappelons que le chef de l'État s'est dit ouvert le 31 janvier dernier à un dialogue national à condition qu'il se tienne en RDC et soit organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent les pactes nationaux. Au Nord Kivu, plus de 100 000 enfants risquent l'apatridie dans les zones de Beni-Lubero et Butembo, faute de registre de naissance. La situation a été débattue lors d'un atelier de plaidoyer tenu jeudi à Beni, réunissant des préposés de l'état civil qui appellent l'état à des mesures urgentes pour garantir l'enregistrement des nouvelles naissances et protéger les droits de l'enfant. Marc Marofimbo pour les détails.
Dans la chefferie de Bache, par exemple, plus de 25 000 enfants ne disposent pas d'acte de naissance. La situation est similaire dans le secteur de Rwenzori, où l'on dénombre plus de 35 000 enfants privés de leur acte de naissance. Kavira Kanzira Darlene interpelle à son tour l'État congolais.
Nous avons maintenant un problème de coupure des registres il y a 3 ans. Les enfants sont là, ils sont en train de naître 10 jours au jour. Et maintenant, que faire? Et comme les parents savaient maintenant l'importance de la déclaration de naissance, ils ne cessent de penser de temps à autre dans nos bureaux vouloir venir enregistrer les enfants.
Malgré cette carence, les autorités locales appellent les parents à ne pas se décourager. Jean-Paul Kaindo, bourgmestre de la commune de Boulongo et participant à cet atelier, souligne la responsabilité de l'État.
Ça, c'est la charge exclusive de l'État qui doit mener toutes ces démarches pour permettre la disponibilité de ces registres. Donc, les parents ne doivent pas se désintéresser à mener les enfants devant les bureaux de l'État civil.
Organisé par les conseillers norvégiens pour les réfugiés NRC, cette activité de plaidoyer s'inscrit dans ce projet des réponses multisectorielles en faveur des populations affectées par les conflits en Ituri et au Nord Kivu. Elle vise à faciliter l'accès à la documentation civile légale et à prévenir le risque d'apatridie. Beni, Marc Marofimbo, Radio Capi.
En plus bref, la cabine d'énergie de la Radio Veritas et les centres culturels des jeunes ont été calcinés par un incendie. C'est samedi 7 février 2026 à Cabinda, province de Lomami. Conséquence, ce média du diocèse de Cabinda n'aimait plus, privant les auditeurs de leurs programmes habituels. Selon les premières informations, un court-circuit dans le dispositif solaire serait à l'origine du sinistre. Plusieurs batteries ont été détruites. L'intervention rapide du personnel et de quelques habitants a permis de limiter l'extension du feu. Le personnel de la radio Veritas lance un SOS aux hommes de bonne volonté pour une aide pouvant permettre la reprise des activités. Je le disais en titre, les sinistrés de pluie diluviennes à la base des inondations dans la ville de Kinshasa, ainsi que les personnes vivantes avec handicap ont reçu ce samedi 7 février au stade Tata Raphaël une assistance en vivres et non-vivres de la part de la Fondation Étienne Tshisekedi. Il s'agit de 3000 ménages ayant perdu leurs habitations dans les inondations et recueillis dans différents sites d'accueil provisoires dans la ville de Kinshasa. Plus de détails sur les déroulement de cette cérémonie dans ce reportage signé Élise Kavira.
Ces sinistrés qui avaient trouvé refuge au stade des Martyrs et Tata Raphaël ainsi qu'à Kinkole sont venus nombreux pour recevoir du riz, de la semoule, des haricots, du sel, de l'huile, des matelas, des vêtements et des chaussures de la part de la Fondation Étienne Tshisekedi. Le directeur général de la Fondation, Haruna Ndarabou, nous explique le sens de ces gestes de cœur.
Comme dit-on, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans ce sens que la Fondation a apporté ces gestes aujourd'hui pour soutenir ces 3000 ménages, ces personnes vivant avec handicap. Mais au-delà, il y a d'autres programmes que nous allons mettre en place au profit de ces personnes et de ces familles.
En dehors des familles sinistrées, des personnes vivant avec handicap sont aussi comptées parmi les bénéficiaires de ces dons. Lusambila Ediazola Martin, porte-parole des 12 structures des personnes vivant avec handicap, nous partage son sentiment au terme de cette activité.
Nous avons à peu près 530 personnes qui vont bénéficier du don offert par la Fondation Étienne Tshisekedi. Mais nous plaidons plus ici pour la mise en œuvre des activités concrètes. Merci pour ces dons, mais l'homme ne vivra pas du don. Il faut que chacun apprenne à pêcher.
Cette action en faveur des sinistrés des inondations est la première pour l'année 2026. Cependant, le directeur général de la Fondation Étienne Tshisekedi promet que ce ne sera pas la dernière.
Direction la province du Maniema, où la société civile Force Vive sous antenne de Wamaza, en territoire de Kabambare, alerte les autorités compétentes et sanitaires sur les décès de plusieurs personnes, dont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Selon Issa Eradi Doris, secrétaire de cette structure citoyenne, ces décès sont dus à plusieurs maladies, notamment la malnutrition aiguë, sévère, et le paludisme. Ce dernier plaide pour l'approvisionnement en médicaments et en matériel des structures sanitaires de la place pour une bonne prise en charge des malades. Issa Eradi Doris a été joint par Florence Kizalunga.
La société civile alerte sur les multiples décès liés aux 5 pathologies les plus racontées. Nous avons la malnutrition aiguë sévère, la diarrhée, la pneumonie, fièvre typhoïde, paludisme modéré, même masse associée par l'anémie. Un nombre très élevé vient d'être enregistré depuis le mois d'octobre 2025 jusqu'aujourd'hui au centre de santé de référence de Wamaza et d'autres aires de santé. Les femmes enceintes et les enfants moins de 5 ans sont victimes de cette maladie avec un croissant nombre de 60%. Avertissons que l'inaction ou le retard dans les réponses sanitaires pourrait entraîner d'autres pertes de vies humaines. Nous faisons un plaidoyer au gouvernement et aux organisations humanitaires qu'ils prennent des mesures urgentes afin de sauver les vies de la population, surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui sont plus exposés. Ces structures sanitaires nécessitent l'appui de médicaments et matériel afin de répondre aux besoins ressenti de la population, particulièrement les patients qui viennent chercher leur guérison totale.
Retour au Nord Kivu, où une vingtaine d'organisations locales appellent à l'intégration du territoire de Walikale dans le programme d'intervention économique en province. Elles ont formulé cette demande ce vendredi 6 février dans une correspondance adressée au ministre congolais de l'économie nationale et de l'agriculture. Ces acteurs de défense des droits humains et de l'environnement réagissent à une note circulaire du 28 janvier annonçant la signature d'un protocole d'accord entre les deux ministères sur les interventions économiques d'urgence pour la production des cultures vivrières de base. Selon les coordonnateurs de l'ONG Les Écologistes, l'un des signateurs, Walikale, au regard de ses importantes potentialités agricoles, ne devrait pas être exclu de la liste des zones bénéficiaires. Prince Kiangi Kiamwani, au micro de Bernadette Nyangi.
Dois-je rappeler qu'au-delà des ressources minières, Walikale, son sol est très fertile pour développer plusieurs cultures dont le maïs, les haricots, les blés, les sorgho, l'arachide, pommes de terre, patates douces et l'huile de palme. Son climat est aussi favorable à la culture du cacao, du café, du thé et du quinquina. Force est de constater cependant qu'en dépit de toutes ses potentialités énormes sur le plan agricole, le territoire de Walikale a été omis de la liste des territoires bénéficiaires du programme d'intervention économique d'urgence pour la production de 3 cultures vivrières de base, à savoir le maïs, le haricot et la pomme de terre. Cette omission délibérée rappelle d'autres cas similaires, notamment l'exclusion du territoire de Walikale du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu, le PASA NK. La récente exclusion du territoire de Walikale du couloir vert Kivu-Kinshasa, et pourtant Walikale est considéré comme le poumon vert de la région. C'est ainsi que 25 organisations viennent de saisir les autorités compétentes pour solliciter d'elles la prise en compte du territoire de Walikale dans les programmes d'interventions économiques au Nord Kivu.
Restons au Nord Kivu pour prendre ce bilan de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Au moins 8 naissances de gorilles, des repeuplements signalés, l'augmentation de la capacité du réseau électrique, l'implantation d'usines des minoteries et des biscuiteries, offrant des emplois à plus de 11 000 agriculteurs. Un bilan présenté malgré un contexte sécuritaire difficile qui a contraint la fermeture des sites touristiques de Rumangabo, Bukima, Nyakakoma, Chegera et Kigeri. Selon le chargé de communication de l'ICCN, la conservation de la biodiversité a montré une belle résilience. Bienvenue Bouende en parle au micro de Marc Marofimbo.
Malgré un contexte très difficile, nous avons eu des résultats très encourageants, notamment dans le cadre de la conservation de la nature où nous avons enregistré 8 naissances de gorilles de montagne. Mais de manière plus globale, la situation des espèces au parc national de Virunga est restée très stable. Il faut dire que nous avons réussi à amener un certain nombre de projets, évidemment dans un contexte très difficile. Par exemple, la mise en service de la première phase de la centrale de Rangouba, qui a pompé pratiquement 15 mégawatts dans les réseaux qui alimentent Rutshuru, Nyiragongo et la ville de Goma. Nous avons réussi à installer des usines importantes, une minoterie moderne avec une capacité de 50 tonnes de production par jour, mais aussi une biscuiterie. La minoterie a déjà produit ses premiers sacs de farine qui sont sur le marché local actuellement, et la biscuiterie le fera très bientôt parce qu'on est en phase de dernier réglage.
Actualité internationale.
En déplacement au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a réaffirmé que le combat contre l'organisation État islamique est une priorité absolue pour Paris. Il n'a cependant donné aucun détail sur les sorts des détenus hommes, femmes et enfants français derrière des grilles syriennes ou irakiennes pour appartenance au groupe terroriste.
L'invité.
Nous recevons comme invité Espoir Kikuni Moussagi, directeur pays de l'ONG Secours aux Vulnérables SAV. Il nous parle de la campagne de détraumatisation des élèves en milieu scolaire menée dans la ville de Goma et ses environs. Face aux effets psychologiques provoqués par les événements liés à la guerre qui sévit dans la région depuis plus d'une année, de nombreux enfants présentent des signes de traumatisme. C'est ces constats qui justifient le lancement de cette campagne que l'organisation conduit depuis plus d'une semaine. Espoir Kikuni revient ici sur les différentes techniques utilisées. Ils s'entretiennent avec Bernadette Nyangi.
Monsieur Kikuni Moussagi Espoir, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
D'où vous est venue d'abord cette idée de commencer cette campagne-là de détraumatisation des écoliers?
C'est une passion, bien que nous avions fait la psychologie, mais nous avions eu de cette idée. Après la situation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait le cas des enfants qui étaient déjà agressifs en milieu scolaire. Écoutant ces enfants, les enfants nous partageaient des histoires un peu touchantes où certains ont perdu leurs parents et les autres ne savaient pas où se trouvaient leurs parents. Maintenant, on s'est dit, non, nous devons mobiliser, réunir ces enfants pour organiser des accompagnements psychosociaux. Et donc, l'origine de cette initiative, c'est après la situation qui s'était passée depuis le 27 mars 2025. De retour à l'école, les enfants présentaient des signes vraiment qui ne correspondaient pas au comportement lié à un élève à l'école.
Est-ce que, comme vous l'avez commencé cette activité en 2025, est-ce qu'il y a un certain bilan une année après?
Il y a un bilan, effectivement. Nous avions identifié 547 enfants, orphelins et vulnérables, bien sûr. Parmi les vulnérables, il y a des enfants qui sont ici, des familles séparées. Les enfants ne savent pas où se trouvent les parents, ils restent dans des familles d'accueil. Il y en a d'autres qui ont perdu leurs parents, soit pendant la guerre ou avant la guerre. Alors, le bilan que nous avions élaboré, c'était ces 547 élèves qui ont bénéficié de notre prise en charge psychosociale. D'ailleurs, il y a une fille de 15 ans en 6e année primaire qui a trouvé une personne de bonne volonté qui a pris en charge cet enfant et l'a adopté. Aujourd'hui, c'est cette dame qui se trouve en France qui commence déjà à scolariser cet enfant. De la part du comportement des élèves, il y a quand même un sourire qui s'affiche déjà au visage. Les élèves retrouvent encore leur image, la joie, ils jouent avec les autres, ils ne sont plus isolés. Et c'est à partir de là que les autorités provinciales des ministères de l'éducation nous ont dit d'étendre ces activités à travers d'autres écoles, étant donné qu'il n'y a pas moins d'enfants qui souffrent de la même situation de traumatisme dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma. Et d'ailleurs, nous avions eu aussi l'appel au niveau des SAC, à l'EPEKIMOKA et l'Institut Kamuronza, où nous avions aussi sensibilisé, non seulement sur les traumatismes, mais aussi sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire.
J'ai vu, par exemple, ce que vous avez fait hier. Quelles sont les techniques, en fait, que vous avez pour cette détraumatisation-là des enfants?
Tout d'abord, nous procédons par le jeu théâtral. Nous avions aussi utilisé la psychométrique, c'est-à-dire nous utilisons le jeu, le jouet, parce que les enfants aiment beaucoup le jeu. Alors, avec ces gestes, ça attire un peu les enfants. Les enfants semblent oublier ce qui les faisait mal. Nous passons aussi par les activités de staff care. Staff care en psychologie, c'est quoi? C'est la prise en charge psychosociale du personnel, les agents. Parce qu'il y a des fois, lorsque un agent est traumatisé, il y a un rabais des résultats. Il n'est plus vraiment productif dans son poste d'attachement. Ça aussi, ça nous permet aussi de mutualiser les efforts. Nous formons les enseignants, comme les assistants psychosociaux et les membres des communautés. Nous faisons les écoutes actives. collective, thérapie des groupes, pour terminer par la célébration communautaire. Et dans l'ensemble, ça amène un résultat aux enfants. Lorsque les enfants voient tout ce qui se fait dans leur intérêt, ils se rendent compte qu'ils sont considérés encore dans la communauté.
Quand vous réunissez des centaines d'enfants, comment vous procédez pour maintenant identifier les enfants qui pourraient avoir besoin d'un certain suivi un peu plus spécial?
Nous faisons d'abord l'animation. Et dans l'animation, nous pouvons appliquer un concept utilisé en psychologie, les fausses croyances. Les enfants pensent que perdre un parent, c'est parce que c'est lui seulement, parce qu'il est de telle communauté, il est tel. Mais à partir de là, nous essayons un peu de demander, est-ce qu'il y a un enfant qui a perdu peut-être un parent, deux parents, ou séparé de parents, ou soit à l'école, il se rend compte que, compte tenu de sa communauté, de sa langue, de sa manière de parler, il est un peu frustré à l'école, il peut se manifester. Il y a même des enfants qui font de pleurs en pleine activité. Comme hier à l'Epaigo, il y a eu un cas, mais Dieu merci parce que les psychologues, nous nous sommes mis ensemble et on a découvert les vrais problèmes de l'enfant. Et il y en a d'autres qui ne se manifestent pas, ils s'ouvrent auprès de leurs enseignants ou directeurs et nous les identifions.
Monsieur Kikuni Moussaï Espoir, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
C'était donc notre invité, Espoir Kikuni Moussagi, directeur pays de l'ONG Secours aux Vulnérables, qui s'entretenait avec Bernard Nyang. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilandang Kumar et mise en onde par Jean-Claude Nsialamanama Kengunswalu. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.